Je distinguerai trois aspects dans l'Opus Dei. Un aspect ascétique, quasiment pénitentiel, sur lequel je n'insisterai pas, qui est certainement pas le plus important, ni le plus intéressant. Un aspect de louange, la louange de la créature au créateur, la louange surnaturelle, soutenue par la charité, et qui sera au ciel soutenue par la vision face à face. Mais qui sera une activité créée au ciel encore, qui sera le chant éternel, l'opus Dei, comme la théologie d'ailleurs, et la seule chose, la seule activité autre que la charité même, qui se prolongera éternellement. Le genre d'exercice que nous accomplissons en ce moment se continuera au ciel, c'est-à-dire que nous parlerons de Dieu. Nous parlerons à Dieu et nous parlerons de Dieu entre nous, car il y aura des activités horizontales et pas seulement des activités verticales. Et nous, il y aura un équivalent glorieux du rire et des larmes. Il y aura toute une vie sociale intense, avec transparence parfaite les uns vis-à-vis des autres, telles que toutes les conversations et les dialogues de la Terre ne sont que des ombres décevantes et fugaces comparées à cela. Tout cela, et il y aura en plus un dialogue avec Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas seulement disparition en Dieu dans la vie trinitaire, qui, elle, est encore plus profonde que ce dont je parle, qui est muette. La vision face à face est muette et la charité inspire d'abord et avant tout le plongeon de la créature dans la vision face à face et dans le mutisme par conséquent, le mutisme adorateur de la vision face à face. Et l'équivalent de cela sur la terre, eh bien, c'est précisément le silence de l'oraison quand il est extrêmement profond, n'est-ce pas ? Le silence de l'adoration. Au-delà des mots, au-delà de la louange, dès ici-bas, il y a un silence qui entoure les psaumes, d'ailleurs dans votre liturgie, ce que j'apprécie beaucoup, et qui doit entourer tout l'Opus Dei d'une manière encore plus profonde, c'est-à-dire permanente. Hein. Et ça figure l'aspect le plus divin de notre existence sur la terre et au ciel, lequel est finalement silencieux. Tout en étant trinitaire, tout en étant dialoguant. Car mais c'est un dialogue alors qui est vraiment au niveau, ce qui est extraordinaire, au niveau des dialogues trinitaires entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La créature, dans sa pauvreté, est invitée à entrer dans la danse, dont parle Lewis, un écrivain anglican, dans la danse des échanges trinitaires, c'est-à-dire dans le regard et l'amour réciproque du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à se perdre dans ce dialogue silencieux où la créature garde sa consistance et où elle garde son nom, qui est celui toujours du pauvre. C'est le nom, tout notre nom nouveau, ce sera une variante sur l'air du pauvre. Ben, ce sera toujours le pauvre et la pauvre par excellence, la pauvresse par excellence, c'est la Sainte Vierge, c'est son nom, n'est-ce pas ? Cum essem parvula, ego placui altissimo, parce que j'étais toute petite, j'ai séduit le Très-Haut, mais par quoi ? Par mon néant, ce que Thérèse de l'Enfant Jésus, là encore, a très bien compris. C'est ça qui obtient de moi d'être intéressant aux yeux de Dieu, parce que tout le reste, tout ce que je lui donne, grâce à lui, tous les dons dont il me comble, tout l'amour, tout même, toute la charité, tout cela, c'est lui qui me le donne, et par cela, je lui ressemble. Je ne me distingue pas. On se distingue comme on peut. La créature se distingue par sa pauvreté. Et il est très important de se distinguer de Dieu, très délectable à méditer. C'est que la distinction des personnes est un mystère trinitaire, c'est un mystère divin. Dans la perspective de l'Inde ou de l'Islam, il n'y a pas, y a aucun intérêt à se distinguer de Dieu. Parce que la distinction des personnes n'est pas un mystère divin, il n'y a qu'une personne à supposer qu'il y en ait une, d'ailleurs. On n'est même pas sûr dans l'Inde qu'il y en ait une. Qu'est-ce que c'est qu'une personne, ça va trop. Hein? Il y a la divinité.